c'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Salut Boris Proulx.
Bonjour.
Donc Boris, je rappelle que tu es basé à Ottawa comme correspondant du Devoir. On va parler des lendemains de l'occupation, mais présentement les députés de la Chambre de communes, des communes sont en train de débattre de la pertinence de ratifier la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Et Joël Lightbound, le député libéral, a pris la parole et il avait plus l'air d'un député conservateur que d'un député libéral, mettons.
Ou encore de députés bloquistes, puisque oui, le Bloc québécois aussi a des sérieuses réserves par rapport à cette utilisation des mesures d'urgence depuis mardi dernier. Je le rappelle, les mesures s'appliquent, mais le Parlement doit entériner, si on veut, leur application, leur mise en œuvre au pays par un vote au Parlement qui se tiendra ce soir à 8h, donc dans quelques heures maintenant. Et un vote, on le comprend, qui est extrêmement crucial, puisque d'une part, on ne sait pas ce qui va se produire si jamais ça ne passe pas au niveau de toute l'utilisation qui en a été faite depuis une semaine, donc l'argent qui a été suspendu dans les comptes là, des personnes qui ont participé au convoi pour la liberté ici à Ottawa ou ailleurs, et les arrestations qui ont été faites, tout ça. On entre un petit peu dans un vide juridique si jamais le Parlement refuse d'approuver finalement les mesures d'urgence. Mais pire que ça, le premier ministre Justin Trudeau a renchéri tout à l'heure, en a rajouté une couche, en sous-entendant qu'il en ferait une question de confiance. Et là, Patrick, j'ai pas le choix de le citer parce que je crois que tous les reporters se sont gratté la tête en entendant ses propos. Justin Trudeau a dit « J'ai de la misère à imaginer qu'un parlementaire qui vote non à ces mesures ce soir pourrait imaginer que c'est autre chose que de démontrer la non-confiance dans la responsabilité et la compétence de ce gouvernement. » Donc, il a de la misère à imaginer. Est-ce que ça veut dire qu'il démissionnerait, que son parti, que son gouvernement est carrément menacé?
Boris, pour situer les gens, s'il en fait une question de confiance et qu'il perd le vote, comme le gouvernement libéral est minoritaire, ben le gouvernement tomberait?
Ben, en fait, c'est une motion. Donc, en théorie, c'est pas un vote de confiance. Mais si on l'interprète aussi, le premier ministre n'a plus la confiance de la Chambre, il serait extrêmement fragilisé. Là, un gouvernement, pour fonctionner, a besoin de la confiance des députés. Et ben voilà, Justin Trudeau a voulu passer le message à peut-être les députés de son propre parti, ou peut-être les députés du NPD qui seraient tentés de voter contre leur chef ou pour des raisons de valeur sont contre l'application des mesures d'urgence. Le premier ministre Justin Trudeau dit attention, on ne sait pas ce qui se passerait avec ce gouvernement à cinq mois après l'élection. Et c'est là que je crois que plusieurs reporters, en tout cas moi, j'attendais de pied ferme les paroles de Joël Lightbound, ce député de la région de Québec, vous vous en rappelez, Patrick, qui est sorti contre son propre gouvernement, qui a accusé même son gouvernement d'avoir politisé la pandémie durant la dernière campagne électorale et d'avoir divisé les gens. Ben, écoutez ce qu'il a dit. Il a émis de sérieuses réserves là quant à l'application des mesures d'urgence. Il dit on remplit pas vraiment le seuil minimal en termes d'urgence nationale et tout ça. Mais il dit avec mon parti, avec le Parti libéral, il y a un certain contrat moral comme quoi on doit voter avec le gouvernement pour tout ce qui est des questions de vote de confiance. Mais il dit si c'était pas une question de confiance, je voterais contre. Mais je ne sais pas, on ne sait pas, j'aimerais savoir si sans équivoque, c'est effectivement un vote de confiance. Donc là, il est dans la même situation, autrement dit, en tant que parlementaire que nous, en tant que journalistes, on ne sait pas exactement quelle interprétation a donné à ce vote.
OK, Boris, là, on est à 2h50 du vote, là, et est-ce que M. Trudeau a les voix si l'immense majorité de ses députés vote pour et même chose au NPD?
Probablement oui. Donc, si jamais le vote ne passe pas, je vous avoue, ma soirée est gâchée et on est en mode urgence.
Oui.
Le chef du NPD, Jagmeet Singh, on lui parlait tout à l'heure, il s'adressait aux médias et il a clairement dit, et de toute façon, c'est en cohérence avec tout ce que ses députés, ses troupes ont dit durant le week-end lors du débat sur les mesures d'urgence, c'est-à-dire il va appuyer le gouvernement. M. Singh répète sans cesse qu'il a des très grandes réticences, que c'est la faillite du gouvernement d'en arriver là. Mais pour lui, c'est clair que les manifestants du convoi de la liberté sont encore un danger. Il a même mentionné que certains seraient cachés dans les banlieues d'Ottawa, dans la ville d'Ottawa, même prêts à revenir à tout moment. Donc, on voit que John Meeting a vraiment souligné l'urgence de la situation et l'urgence de faire continuer aussi ces mesures d'urgence, là, finalement, qu'elles sont encore nécessaires à l'heure actuelle, même si je le rappelle, Patrick, là, la ville d'Ottawa s'est revenue à la normale oui. depuis dimanche. Les camions sont partis et il n'y a plus une frontière bloquée au moment où on se parle.
Mais Boris, au-delà de savoir si la loi va être entérinée ce soir au Parlement ou pas entérinée, ce convoi-là, ce qui s'est passé, l'incurie du gouvernement, est-ce que ça va faire mal prochainement au gouvernement Trudeau?
C'est vraiment la question un million de dollars, Patrick. Je vous dirais probablement un peu, mais vous savez, en politique, la question est peut-être plus de savoir à qui ça va faire le plus mal. Je peux le rappeler là que le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a quand même perdu son poste oui. lors de cette crise là, dans les trois dernières semaines. On dirait qu'il s'est passé tellement de choses à Ottawa qu'on oublie presque ça, mais ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour les conservateurs. Et je vous dirais même fondamentalement, il y a des conservateurs qui vont devoir vivre le reste de leur carrière politique avec leur déclaration, avec l'appui qu'ils ont donné à ce convoi de camionneurs. Donc, il y a ça d'une part pour l'opposition officielle. Le NPD va-t-il s'en trouver renforcé d'être dans cette position être, si on veut, l'élément qui rend possible les mesures d'urgence? C'est pas sûr, parce que dans le NPD, il y a beaucoup de militants de gauche qui n'ont pas beaucoup d'atomes crochus avec les services policiers qui demandent plus de pouvoir, vous savez. Donc, il y a peut-être ça au sein du NPD, au sein du Bloc québécois, ben un peu la même chose. On se range du côté des conservateurs contre les mesures d'urgence, alors que l'électorat, les sondages d'opinion semblent dire que l'électorat a peut-être pas beaucoup de patience avec le convoi pour la liberté, là, même dans l'électorat bloquiste.
C'est ce que quelques sondages ont montré, oui. OK, en terminant, en tant que résident d'Ottawa, Boris, est-ce qu'Ottawa recommence à ressembler à Ottawa?
Oui, et ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous dirais que depuis dimanche matin, moi, j'ai fait une grande marche dimanche matin, et c'était le calme plat pour la première fois en 23 jours. Donc, il y avait une petite neige en plus. Les rues étaient entièrement vides. Le périmètre tout autour du Parlement est entièrement bouclé avec des grandes clôtures, énorme présence policière encore au moment où je vous parle, là, qui surveille les allées et venues tout près du Parlement, mais aussi un petit peu partout dans la ville, dans des points de contrôle. Donc, en arrivant en voiture à Ottawa, on peut se retrouver dans un point de contrôle où on a besoin de dire aux policiers notre destination. Donc, je vais travailler, je me rends à la maison, je vais magasiner, tout ça. Et tout ça est justifié par le fait que, oui, il y a encore des manifestants qui promettent un retour à Ottawa. On le voit sur les médias sociaux. Il y a des médias qui rapportent des rassemblements en périphérie d'Ottawa, dans l'Est ontarien, quelques miettes du convoi de la liberté, peut-être les plus radicaux qui souhaitent encore un retour dans la capitale. Donc, un retour à la normale, mais un retour à la normale plutôt stressé d'un possible retour et une présence policière omniprésente.
Un retour anormal, un peu anormal. Merci Boris, bonne soirée à scruter les débats parlementaires.
Je vous en prie.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Patrick.
OK, donc fin d'occupation à Ottawa en fin de semaine. Et je dois le souligner, tu l'avais dit que ça prendrait pas beaucoup de temps. Ça a pris pas mal moins de temps qu'on pensait. Deuxièmement, manif à Québec. Qui a gagné et qui a perdu?
Ceux qui ont gagné et perdu d'abord. Commençons par mi-gagné, moitié gagné, moitié perdu, la police d'Ottawa. La police d'Ottawa qui a souffert d'amnésie au départ, puis pas juste la police, parce que je pense pas qu'une décision comme ça a été prise que par la police, la mairie d'Ottawa aussi, une espèce de vision wokiste qui les a amenés à confondre un camion, le droit d'un manifestant de manifester, puis le droit d'un camion de se stationner. Comment ça se fait qu'il y a eu confusion à ce moment-là? Évidemment, c'est la première fois que ça arrivait, on peut leur pardonner, mais du moins, ils se sont repris parce que ça se fait en beauté, là. C'est sortie de crise extraordinaire. Ils ont fait la leçon au monde entier. Il n'y a pas un coup de feu, pas une balle de plastique, pas une poursuite. Il y aura pas, à mon avis, il n'y a pas peut-être.
Il y a deux enquêtes du bureau de surveillance de la police.
Terminer, mais tu compares ça avec les manifestations de Montréal, où il y a eu la ville de Montréal est obligée de payer 6 millions de dollars en dédommagement. On lui réclamait beaucoup plus, mais il y a eu une entente à l'amiable parce qu'il y avait eu usage intempestif de la force. Aussi avec le règlement P6 qui n'a jamais pu être validé par la Cour, donc finalement était jugé illégal et toutes les contraventions ont été annulées.
Oui.
Là, la police d'Ottawa a agi avec une minutie, une propreté.
Oui, mais faut dire, regarde, oui, la police d'Ottawa, mais avec 6 autres corps de police.
Oui, c'est ça,
il
y a appelé du renfort.
OK, donc il y a la police qui est mi-gagnant, mi-perdante. OK, qui d'autre?
Ben, les grands perdants, ce sont les manifestants.
Tu penses?
Ben oui. Moi, mais c'est amusant, puis c'est plutôt, c'est un beau dénouement, parce que, en fait, ce qui s'est passé, selon moi, c'est que quelques leaders est arrivé là en pensant changer le monde, et finalement, le monde les a changés. Parce que ils se sont heurtés à la réalité sociologique du Canada, qui n'est pas un pays qui correspond à leur envie de violence, à leur envie de chaos. Et quand les gars ont commencé à sortir leur bain tourbillon, leur sauna extérieur, pareil à Québec, quand quelqu'un prend le micro, commence à parler de massage. Les gens qui étaient venus
avec une envie de méditation.
Les gens qui étaient venus avec une envie de violence ont dû se dire oups, me semble que ça tourne pas comme on pensait. Et je suis persuadé, moi, que les Pat King, les Diagolon, les Kevin, là, qui ont utilisé des mots extraordinairement violents au départ. Là, les Diagolon, on les a pas entendus, mais ils étaient sur Internet. Mais extraordinairement violents. Mais après ça, t'es obligé de se dire, les gens embarquent pas là-dedans, mais pas en tout. Là. Et finalement, c'est des jeux gonflables qu'on a montés. Pis ça va de l'air d'un meeting Nouvel Âge.
OK, oui, mais attends, faut pas passer... T'as raison, OK, mais faut pas passer sous silence. Les résidents d'Ottawa, dans ces coins-là, dans les quartiers qui ont été envahis, ils ont des histoires différentes. De se faire écœurer parce qu'ils portaient le masque, les commerçants, même affaire. Donc, il y a ça. Mais t'as pas l'impression que c'est peut-être le début de quelque chose?
Ben, c'est ce que beaucoup de monde pense. Puis beaucoup de monde disent, puis ils ont pas tort. Mais sauf que moi, je pense le contraire. Moi, je mets ça comme une hypothèse.
Tu penses que ça va s'étouffer, ils ont eu leur Woodstock, puis ils vont retourner à leur
vie. Pire que ça, c'est que ça va virer en queue de poisson. C'est-à-dire que non seulement ils ont eu leur Woodstock qui les a transformés plus que leur Woodstock a transformé le pouvoir, premièrement. Deuxièmement, ils ont été mis en contact avec les gens qu'ils ont convoqués. Puis ce contact-là, ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Là. Tu es sur Internet, tu appelles des milliers de personnes, puis on va y aller, puis tu as vu les messages des fois, on ne reculera pas, puis ils vont voir ça, puis etc. Puis là, tu es en contact avec tous ces gens-là, et tu te rends compte que finalement... ils ont pas l'envie de révolte, elle est pas là. Ce que je pense qui va se passer, et c'est que les politiciens qui vont vouloir reprendre ce message-là, mettons un Éric Duhaime, lui va y arriver la même affaire. Il va se rendre compte quand il va faire du porte-à-porte, par exemple, parce que tu sais, c'est une chose d'occuper une ville, c'en est une autre de faire du porte-à-porte. Ou quand ses candidats vont faire du porte-à-porte, il va se rendre compte que son message pogne pas en tout. Et là, il va faire du grand Éric Duhaime. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que Éric Duhaime fait le mieux, c'est qu'il va se contredire en donnant l'impression qu'il continue de dire la même chose. Il va effacer les déclarations passées. Il va en faire valoir des nouvelles. Il va se transformer au contact de la population plus que l'inverse. Et il va apparaître une nouvelle bibitte qui va avoir l'air de vouloir changer le monde, mais qui va rien changer avant tout, puis qui va avoir un discours qui va nulle part. Et il va lui arriver le même sort qui est arrivé à Maxime Bernier, c'est-à-dire autour de 5% du vote. Peut-être pas donc, à l'élection partielle, okay, mais à la grande élection.
Donc, toi, ce que tu dis, c'est que là, les 14% d'intention de vote de M. Duhaime, ce que tu nous dis, c'est que ça va se diviser vraiment beaucoup là, au scrutin.
Ça, d'une part, je dis ça, puis je suis pas sûr d'avoir raison, par contre. Puis peut-être ça va rester autour de 14% à l'élection partielle. Mais avec un professeur de politique qui nous avait dit, oubliez pas, 14%, c'est le pourcentage de la population qui pense qu'Elvis est toujours vivant. Fait que, tu sais, 14%, ça veut dire, c'est des gens qui ont pas un contact extrêmement fort avec la réalité, avec le pouvoir politique, avec leur intention de vote. Ils votent par frustration, par écœurement, ou ils votent pas. Ils votent un sondage. Tu sais, ça arrive souvent, ça. Dans le sondage, je suis écœuré, il faut renverser le gouvernement, mais ils vont pas se diriger vers le bureau de vote. Une société non violente, une société, ça se renverse pas, ça devient pas une société violente du jour au lendemain. Puis c'est un message qu'on a eu en fin de semaine. Il y a une autre chose aussi. Il y a pas de vraie révolte sans vraie souffrance. Tu sais, quand il y a eu la volonté d'indépendance là, dans les belles années 76 et compagnie.
Quand le mouvement montait, là, des années 60, début 70. Là.
Finalement, quand on est passé proche, là, on l'a pas atteint parce que finalement, il y a trop de gens qui ont dit, ben finalement, c'est pas si pire que ça, le Canada. Et moi, je suis pas prêt à souffrir. Puis rappelle-toi les arguments d'époque, c'était de dire, si vous votez, vous allez perdre du pouvoir d'achat, vous allez perdre vos fonds.
Même Bernard Landry, Luc, disait, le Canada, c'est pas une prison.
Voilà, le Canada, c'est pas une prison. Ah, ben c'est ça. Les mesures sanitaires, c'était un moment à passer. C'était un moment dur à passer pour beaucoup de monde. C'est un moment qui a pas toujours été bien géré. Vraiment pas. Au pouvoir, il y a du mensonge. Il y en a du mensonge tous les jours, il y a du mensonge. Puis c'est généralement dans les questions environnementales puis de sauvegarde de la nature. Puis, mais il y en a d'autres aussi. Sur le coût, par exemple, le maudit le pipeline Trans Mountain qui devait coûter 7,8 milliards, on apprend qu'il va coûter 22 milliards. Fais-moi pas à croire qu'il n'y avait pas une idée que ça coûterait plus que 7,8 milliards. Même chose avec beaucoup, beaucoup de projets. Ah, on découvre ça. Non, c'est pas vrai, tu le découvres pas. Tu nous en as passé une petite vite.
Je veux reculer un peu. Je veux qu'on parle un tout petit peu d'Éric Duhaime et de son passage hier à Tout le monde en parle. Écoute... J'ai vu des extraits de l'entrevue, là, je ne l'ai pas écouté en intégrale, mais moi je le trouve très habile. Je dois dire, j'aime pas sa forme d'intervention dans la sphère publique, ni même quand il était animateur, mais il est très habile quand même.
De l'habileté. OK, regarde, moi ce que je pense de lui, c'est que c'est une personne qui a plus besoin de lumière que de solution. Lui, si tu mets un projecteur sur lui, une grosse partie de son objectif est atteint. Puis, il va faire ce qu'il faut pour rester en dessous du projecteur. S'il faut changer son discours, il va changer son discours. Puis, si pour être élu, il est obligé de devenir une autre personne avec le même nom, il va le faire. Fait que, tu peux pas dire Éric Duhaime, c'est pas Maxime Bernier, là. Maxime Bernier, là, qui avait décidé qu'il n'y aurait pas de subvention de l'offre, de contrôle de l'offre.
Donc, toi, tu trouves que Duhaime est plus habile politicien que Bernier?
Attends, c'est pas plus habile, ça. C'est plus menteur. C'est-à-dire que, Bernier, lui, il dit, moi, je pense ça, puis si vous êtes d'accord avec moi, vous votez, OK? Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous votez contre moi. Puis résultat, il se ramasse avec un vote misérable. Duhaime ne fera jamais ça. Duhaime, il va dire, moi, je pense ça, puis là, à un moment donné, moi, je pense ça, mais changer un petit peu, mais sans te le dire, puis changer beaucoup, puis à un moment donné, il va dire, moi, je pense ça, qui va être le contraire du début. Mais ça va toujours, il va toujours être resté en dessous du projecteur, par exemple. Il ne s'éloignera jamais du halo de lumière, parce que c'est là qu'il disparaît, lui. Dans son esprit, dans sa psyché, c'est là qu'il disparaît. Fait que c'est pas Éric Duhaime qui est dangereux. Ça serait un Éric Duhaime qui serait élu pour les idées qu'il l'a fait valoir avant de se présenter en dessous du projecteur. Mais ces idées-là vont changer totalement.
La question des candidats, OK? Je veux qu'on parle de ça 30 secondes, là, ça va conclure ta chronique, là. Il a annoncé deux candidats, puis les deux, quand tu commences à fouiller, disons qu'il y a des points de vue, disons, un petit peu atypiques, on va dire ça comme ça. Trouver 125 candidats qui vont pas te faire honte, c'est un défi pour tous les partis. C'est un plus grand défi pour lui.
Pas en ce moment, à cause de cette impression de révolte possible, de révolte, genre, on s'entend, pas violente, mais de volonté de renverser le pouvoir. Ce message-là, on va renverser le pouvoir, il n'y a rien qui marche, le gouvernement vous ment, le gouvernement prend trop d'argent dans vos poches. Ce message-là, il pogne. Puis il va être capable d'aller chercher des gens. Mais comme tu le dis, est-ce qu'il va avoir honte de ces candidats-là? Il va faire exactement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va faire une déclaration qu'il n'aime pas, il va lui demander de la retirer de Facebook. Et ce gars-là qui s'était présenté pour dire, je suis un représentant de la liberté, ça va être le plus grand censeur que tu peux voir, parce qu'il y a toutes sortes de monde qui vont dire toutes sortes d'affaires en dessous de lui, puis il va être obligé de les censurer tous les jours. Il va être obligé d'engager du personnel pour surveiller les publications Facebook, leur faire retirer leurs publications, leur faire effacer leur CV, leur faire effacer leurs déclarations passées. Fait qu'il va faire exactement le contraire de ce qu'il dit.
Merci, Luc. On se retrouve demain.
À demain.
Les services de garde, je sais que vous êtes nombreux à vous creuser la tête parce que vous avez des problèmes pour trouver un endroit où déposer vos enfants. Si vous avez la chance d'avoir une place en CPE, ben vous êtes parmi les chanceux. Et il y a un organisme là qui s'appelle Ma Place au Travail, qui, depuis un peu plus d'un an, milite pour que le gouvernement du Québec soit plus attentif, plus proactif pour créer des places en garderie. Ben, quand on a vu du côté de Ma Place au Travail, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, soulignait avec fierté, en point de presse ce matin, la 100 000e place du réseau de CPE québécois. Mais il y a des gens dans cet organisme qui ont un peu levé un sourcil, qui se disent que le combat est loin d'être terminé. La porte-parole Myriam Lapointe-Gagnon est au bout du fil. Myriam, salut!
Salut!
D'abord, comment vous avez réagi en voyant M. Lacombe célébrer les 100 000 places du réseau de CPE?
Bien, tu l'as bien dit, là, notre réaction, ça a été une levée collective de sourcils, là, je dirais. Tu sais, c'est bien beau, parce que là, on voit souvent Mathieu Lacombe là, sortir des gros chiffres dans les médias, là, puis des 10 000, puis des 100 000. Mais tu sais, il y a des chiffres qui dit pas là-dedans. Puis nous, ce qui nous dérange un peu, c'est que ça donne l'impression à monsieur, madame, tu sais, qui est pas nécessairement au courant du dossier, parce qu'il y en a plein des dossiers, ça donne l'impression que ça bouge vite, puis que ça change vite. Puis là, ça donne l'impression qu'on chiale dans le vide. Ce qu'il faudrait dire là, actuellement, c'est qu'en ce moment, on se retrouve toujours avec 37 000 places manquantes au dire du ministère, là, parce qu'il y a plein de chiffres différents qui circulent, et on a encore 70 000 places non subventionnées. Donc, moi, je me dis, le chiffre à retenir, c'est qu'il nous reste 107 000 places à créer actuellement ou à ouvrir de façon subventionnée. Puis ce qu'on dit pas, là, c'est qu'on a perdu autour de 13 000 places depuis 2018. Oui, en raison de la pandémie, parce qu'il y a plein de lieux qui ont fermé leurs portes, là, c'était rendu trop compliqué, mais aussi à cause des conditions de travail qui étaient laissées de côté, donc il y a eu de la grève, il y a eu beaucoup de choses dans ce dossier-là. Donc, c'est bien beau lancer des chiffres, là, mais ça serait le fun qu'à la place de donner de l'argent puis du temps à des grandes annonces comme ça, ben on se mette au travail pour s'attaquer aux 107 000 places.
Mais je regarde le travail que fait M. Lacombe depuis quelques mois, là. Puis bon, il y a été question. Il y a eu le rattrapage salarial qui a été réglé en égo. Il y a l'annonce de création de dizaines de milliers de places CPE et garderies privées subventionnées. Écoutez, qu'est-ce qui fait pas assez rapidement à votre goût à l'organisme chez à Ma Place au Travail?
Bien, je vous dirais que présentement, on a comme un ministre de la famille du futur et non un ministre de la famille du présent. C'est-à-dire que les places qui l'ouvrent, qui octroient, mais c'est des places qui vont être octroyées dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, ils vont ouvrir pour les enfants qui sont pas nés encore. Nous, vous le disiez, ça fait presque un an là, qu'on milite pour les familles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de place depuis déjà un an ou qui attendent ou qui sont sur des listes puis qui sont stressés maintenant, ça prend, ce qu'on dit depuis le début, le jour 1, une aide d'urgence aux familles pour leur permettre de souffler en attendant qu'on crée les places manquantes.
Ce serait quoi une aide d'urgence aux familles? Vous voulez dire un chèque?
Ben, ça peut être toutes sortes de choses, toutes sortes de formules. Nous, on en discute d'ailleurs, là, primeur, là, on en discute avec Mathieu Lacombe, avec le CA de Ma Place au Travail. On s'assoit virtuellement ensemble à 8h mardi. On a plusieurs suggestions. On sait que les oppositions travaillent aussi sur des pistes de solutions. Par exemple, ça pourrait être la prolongation du RQAP, là, le régime québécois d'assurance parentale, jusqu'à 18 mois, parce qu'on sait que à 18 mois, ben, on n'est plus considéré un poupon. Donc, nos bébés ont plus de chances de trouver une place. Okay. Et nous, on veut que ça soit temporaire. Il faut bien comprendre. On s'appelle Ma Place au Travail. Pas Ma Place chez nous à rien faire et à recevoir des chèques. Là, on est des professionnels qui voulons retourner sur le marché du travail et qui ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants et de nos propres besoins actuellement.
Je pense que c'est important, en conclusion, là, Myriam, de rappeler justement l'essence de Ma Place au Travail.
Ouais.
Oui, vous voulez que les enfants aient une place. Mais votre croisade, c'est que pendant que ces enfants-là sont en garderie, ben ça fait beaucoup de mères qui peuvent travailler. Puis présentement, mais comme il y a une pénurie,
il y a bien
des mères qui peuvent pas travailler.
Exactement. Puis c'est des mères, tu sais, je veux dire, dans tous les domaines. C'est des femmes qui travaillent dans tous les secteurs. Puis je veux dire, moi, dans mon équipe en pédopsychiatrie à l'hôpital de Rivière-du-Loup, on est 4 sur une équipe d'à peu près 12 qui cherchons des places en garderie. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pour des services en santé mentale pour les jeunes, là.
Puis ces mères qui n'ont pas, dans votre entourage, qui n'ont pas de place en garderie, qu'est-ce qu'elles font?
Ben, elles arrêtent de travailler ou elles font du télétravail avec leurs enfants sur eux. Mais ça, c'est quand quand on peut se le permettre. Puis pour l'enfant, moi, ça me questionne énormément. Là. Être en télétravail avec deux enfants à la maison, essayer de jongler, de répondre aux exigences, laisser les enfants dans des parcs à côté, on n'est pas en train de leur offrir le meilleur. Les femmes et les pères aussi qui ont deux jobs là, pour subvenir puis payer la maison avec le coût de la vie qui augmente, c'est du stress là dans les familles, c'est pas possible. Les témoignages que je lis, on en a reçu plus de 5000 depuis le début de ma place au travail, des témoignages, et c'est de pire en pire la détresse qu'on reçoit là, parce que sur le terrain, le coût de la vie continue d'augmenter, il y a pas plus de place pour les familles d'aujourd'hui, et il y a toujours aucune aide. La seule aide auquel on a accès, c'est le bien-être social, puis pour ça, faut tout vendre. Puis on n'est plus en emploi là à partir de là. Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup des femmes qui ne retourneront plus en emploi et des familles qui ne font plus d'enfants parce que c'est trop un casse-tête de trouver des places. Là. Et d'ailleurs, j'ai perdu ma gardeuse. Donc,
Dieu.
Retour à la case départ. Puis je sais pas quand est-ce elle est sur le bord du burn-out. Je sais pas quand est-ce qu'elle va fermer officiellement. Elle nous a dit, dépêchez-vous de trouver. On est plein à appeler, puis il n'y en a pas de place. On s'entend que je manque pas de contact, là. J'en ai pas de place.
Je comprends. Bonne chance, Myriam, puis on fera un suivi après la rencontre avec le ministre Lacombe.
Avec grand plaisir.
Salut. Merci à la prochaine. Salut. C'était Myriam Lapointe-Gagnon, porte-parole de Ma Place au Travail. Et pendant l'entrevue, quelqu'un m'écrit sur la messagerie 98985. On a fait l'achat d'une maison à Sherbrooke. On déménage le 1er avril. On cherche deux places en garderie depuis octobre et toujours rien. Et là, ces gens-là se demandent qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il y en a des milliers comme ça. Et c'est pour eux et elles, surtout elles, que Ma Place au Travail mène le combat.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va finir l'émission avec le docteur psychiatre Marie-Ève Cotton. Comment vont les gens? Comment vont nos bébites, comme disait ma mère? Parce que de ce temps-là, je vous le dis, les gens sont assez fatigués, tannés, et ça se répercute sur notre morale et sur notre santé mentale. Marie-Ève Cotton, dans quelques instants. Et vous deux, qu'est-ce que vous avez à dire pour vos défenses?
Ben, on va se parler de Britney. Je sais que c'est un des sujets que MC aime beaucoup parce qu'il trouve Britney bizarre sur les médias sociaux. Britney Spears qui a décidé de vendre son histoire, ses mémoires, afin de les coucher sur papier pour pouvoir aider d'autres personnes. Et on va se parler aussi de mon expérience hier. Je suis allée à Montréal en lumière. Je suis allée patiner.
Oh, ah, la belle patinoire surélevée.
Je vais vous raconter un peu si ça vaut la peine.
Est-ce que t'es une bonne patineuse?
Moyenne.
Moyenne, OK. Parfait. Ben, t'es pas tombée par-dessus la balustrade?
Non, mais je me suis mis après la rampe un temps.
Puis sur Instagram, ça allait bien. T'allais vite.
C'était à la fin.
Tu vois, autant Britney que Catherine, c'est à la même place où je prends mes nouvelles sur Instagram.
Calmez-vous. Dernier bulletin de nouvelles de Valérie. Madame Leboeuf, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Donc, 2 heures après avoir reconnu l'indépendance des territoires séparatistes d'Ukraine, Vladimir Poutine a ordonné à l'armée russe de maintenir la paix dans les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk.
Oui, les deux décrets du président russe demandent au ministère de la Défense que les forces armées de la Russie assument les fonctions de maintien de la paix sur ces territoires. Aucun calendrier de déploiement ni son ampleur n'ont été annoncés dans ces documents qui tiennent chacun en une page et qui ont été publiés sur le site de la base de données russe des textes de droit. En réaction, les États-Unis vont imposer des restrictions au commerce et au financement dans les deux territoires. L'Union européenne qui va aussi imposer des sanctions à ceux qui sont impliqués dans ce qu'elle qualifie de violation flagrante du droit international.
Et Justin Trudeau demande aux partis d'opposition d'appuyer la loi sur les mesures d'urgence. Le vote va être tenu ce soir à la Chambre des communes.
Le premier ministre qui estime qu'il est nécessaire d'avoir les pouvoirs que procure cette loi alors que certains manifestants disent vouloir revenir à la charge. M. Trudeau en a profité pour dire à ces manifestants que s'ils veulent changer les choses, il y a une autre façon d'y arriver. On l'écoute.
Les façons de changer les choses dans une démocratie, c'est pas par des actes illégaux, c'est pas par des occupations qui font mal à vos concitoyens. C'est avec de l'action politique, d'aller voter, mais aussi, si vous voulez vraiment changer les choses, portez-vous candidat dans les prochaines élections.
Et à Québec, les patients qui doivent subir une chirurgie non urgente vont devoir prendre leur mal en patience.
Oui, parce que la liste d'attente a gonflé de 51% depuis le début de la pandémie. C'est au CHU de Québec. Les inscriptions qui sont passées de 11 393 en mars 2020 à 17 220 en février 2022. Selon une mise à jour de la direction, il y a 2180 personnes qui attendent depuis plus de 9 mois. Le retard va continuer de s'accentuer puisque les salles opératoires n'ont pas les ressources pour fonctionner à plus de 85% de leur capacité. Ça pourrait donc prendre des années avant de retourner à la situation qui prévalait avant l'apparition de la COVID-19.
Merci Valérie, excellente soirée à toi. Merci. On va se retrouver demain, 18h05. Bon, parlons un peu de santé mentale. Vous le savez, depuis 2 ans, c'est dur sur le moral des gens. Et ça se manifeste, je dirais, de toutes sortes de façons. Il y a sûrement des histoires dans vos entourages, peut-être même que vous aussi, vous l'avez vécu, une impression d'épuisement. On va parler avec Dr Marie-Ève Coton, psychiatre. Salut, Dr Coton.
Bonjour, M. Lagacé.
Ben écoutez, je vais commencer avec une question qui est dans le ton. Comment ça va?
Ça va bien. Moi aussi, je suis fatiguée de la pandémie, fatiguée des mesures. En même temps, je trouve que c'est... Pour moi, ce qui a été plus facile peut-être que pour d'autres dans la pandémie, c'était le fait de faire des sacrifices et que ça ait un sens. Pour moi, protéger les personnes les plus fragiles dans la société, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé très porteur de sens et très gratifiant. Fait que là-dessus, je me raccroche à ça. Je me dis, c'est difficile ce qu'on traverse. On a fait beaucoup de sacrifices. Ça nous a tous fait mal de voir moins de gens et tout ça, mais je me dis, on a fait ça pour sauver des gens, on a sauvé des vies comme ça, c'est pas rien. C'est à ça que je m'accroche.
Pourquoi ça nous a rentré dedans comme ça?
L'être humain aime pas le changement, donc devoir s'adapter, on a beaucoup dû s'adapter depuis 2 ans, donc ça nous a grugé beaucoup d'énergie. L'être humain aime pas l'incertitude. Beaucoup de gens réagissent à l'incertitude en inventant des certitudes. Bon, ça donne lieu à tout le mouvement là, qu'on connaît, conspirationniste et tout ça, mais vivre dans l'incertitude, tu sais, ça fait 2 ans qu'on vit en sachant, on ne peut pas faire des projets deux, trois, quatre mois en avance parce qu'on sait pas où sera rendu. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. C'est comme une espèce d'anxiété qui est toujours là où on... C'est très difficile d'avoir les données avec lesquelles on peut composer. Fait que ça aussi, ça gruge au niveau de la santé mentale, au niveau de l'énergie psychologique. Fait qu'il y a toutes sortes. Puis aussi le risque, tu sais, le risque à gérer. Et pour beaucoup de gens, le risque, c'est pas tant la crainte de tomber malade, mais de pas vouloir justement propager ou pas vouloir infecter des personnes vulnérables. Fait que c'est mine de rien, puis c'est pas des stress spectaculaires, mais une pandémie, c'est une espèce de stress chronique, c'est la chronicité, c'est une espèce de marathon. C'est là où ça finit par être, tu sais, c'est pas comme une guerre spectaculaire où t'as un stress, tu peux mourir, tu t'en vas à une bataille. C'est comme une maladie chronique où à chaque jour, c'est un combat contre l'ennui, c'est un combat contre le découragement. C'est une autre sorte de guerre, si vous voulez. Mais c'est usant. C'est une forme de combat qui est très usante, tu sais, à la longue. Fait que tout ça nous a taxé psychologiquement tout le monde.
Est-ce que ça se peut, Dr Coton, qu'il y a aussi l'aspect totalement nouveau? On n'avait jamais vécu ça. Tu sais, on, comme individu, on n'est pas pire pour gérer certains stress. Là. Des fois, on se fait submerger, mais tu sais, on sait comment surmonter une peine d'amour, une perte d'emploi, la maladie d'un proche, etc. Je dis pas que c'est facile, mais là, complètement nouveau, est-ce que ça aurait été plus facile s'il y avait une pandémie, ce qu'on ne souhaite pas aux 10 ans?
Oui, parce qu'on aurait des souvenirs, on aurait, tu sais, quand tu traverses quelque chose, puis tu as une représentation mentale que ça finit à un moment donné, tu sais, parce que les gens, par exemple, les gens qui ont traversé la grippe espagnole, il n'y en a plus beaucoup de vivants, évidemment, là, parce que ça fait pratiquement 100 ans, mais ces gens-là ont la représentation qu'à un moment donné, une pandémie, ça a une fin, tu sais, même si c'est beaucoup de sacrifices, puis c'est plate pendant quelques années, il y a une fin, ça aide. Alors que la plupart des gens vivants qui ont vécu la COVID actuellement, on n'avait aucune représentation de c'était quoi cette épreuve-là, ça dure combien de temps, on réagit comment à ça. Donc l'incertitude, c'est un des facteurs qui augmente beaucoup. La nouveauté et l'incertitude, ça augmente beaucoup l'effet du stress. Ça. Fait qu'effectivement, on ne pouvait pas se rabattre sur aucun schéma connu de résolution de problèmes ou de dire... On peut s'appuyer là-dessus pour se donner espoir. Personne ou presque, à part des gens très, très âgés, n'avait une expérience vivante d'une pandémie. Fait que ça ajoute beaucoup, beaucoup au stress. Puis le fait de pas avoir de contrôle, beaucoup non plus. Tu sais, quand t'as une situation puis t'as pas de contrôle énormément, tu sais, il y a pas personne qui avait le contrôle sur Omicron, là. Le timing d'Omicron a été très dur sur le moral des troupes, mais on n'avait pas le contrôle sur quand est-ce qu'il allait arriver ici. Ça allait, tu sais, affecter les célébrations de Noël et tout ça. Fait que c'est difficile de rencontrer des choses sur lesquelles t'as assez peu de contrôle, finalement.
Vous avez dit il y a quelques instants, l'incertitude, ça nourrit le mouvement conspirationniste. Est-ce que vous avez été surpris de voir à quel point il y a des gens qui sont tombés dans ces mouvances-là, dans les sables mouvants du complotisme, de la désinformation?
Oui, j'ai trouvé ça surprenant et même angoissant. C'est pour ça que dans mes communications, j'essaie vraiment de comprendre le phénomène et d'essayer de le faire comprendre aux gens. Parce que pour les gens qui sont pas là-dedans, de voir l'ampleur, la quantité de gens, puis de voir des gens avec qui on avait beaucoup de proximité, tout ça, tomber là-dedans, c'est très anxiogène de dire, coudonc, tout d'un coup, tu sais, il arrive quelque chose de difficile. Oui, mais il y a comme 10% de la population ou un peu moins, tu sais, qui glisse dans une réalité parallèle. C'est très particulier de le vivre aussi du côté de ceux qui sont pas là-dedans. Alors, j'ai trouvé ça parce que j'avais pas vécu, moi non plus, d'événements collectifs. Tu sais, j'ai lu très tôt dans la pandémie, j'ai lu un livre qui s'intitulait « C'est quoi la réaction psychologique des gens à des pandémies ?» Et ça a été étudié parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes au fil des années. Et les théories du complot augmentent toujours dans les pandémies. Mais c'était quand même surprenant pour moi de voir l'ampleur que ça a pris, puis de voir des gens que j'aurais jamais imaginé qui pourraient verser dans ce genre de croyances-là, le faire quand même. Donc, c'était vraiment quelque chose de surprenant, oui.
Chaque fois que j'écris là-dessus ou que je commente ici à la radio sur des sujets qui touchent la désinformation, qui touchent le complotisme, il y a des gens qui m'écrivent, puis c'est toujours, ça déchire le cœur. Ces gens qui racontent comment ils ont perdu des proches à ces mouvances-là, quasiment, ils savent plus comment entrer en communication avec eux. Est-ce que, comme psychiatre, Dr Coton, vous avez des conseils à leur donner?
Oui, c'est des conseils. C'est sûr qu'il ne faut pas que les gens s'attendent de dire qu'il y aurait une façon de les aborder qui empêcherait les problèmes. Tu sais, ça reste que c'est laborieux pour tout le monde. Tu sais. Mais en même temps, ce que je finis par un petit peu, à force de lire, à force aussi de mon expérience avec eux, je dirais, la confrontation, tu sais, frontale ne sert à rien. Même des fois, elle renforce même leurs croyances. C'est comme si pour eux, le fait qu'on essaie de les convaincre d'autre chose, ils rentrent ça dans le complot en disant, bah, tu vois bien, t'es comme le gouvernement ou t'es comme les médias, etc. Depuis un certain temps, moi, je vais plus avec les questions. C'est-à-dire que je fais une espèce de questionnement socratique sur, OK, explique-moi ta position, et je les pousse dans l'irrationalité de leur position, mais je donne jamais la mienne. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu fais fi de toute la réalité, tu sais, de questionner, d'y aller juste par questionnement, mais ça, est-ce que comment tu peux être certain de ça? Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que ça, tu peux m'en donner des preuves? Juste en posant des questions, et en les mettant en contact avec la propre limite de ce qu'ils avancent, je trouve que ça amène un peu moins de confrontation. Puis, pour les gens qui veulent absolument aborder le sujet. Sinon, pour les gens qui ont des proches qui sont dans les théories du complot et qui veulent quand même, ce qu'on recommande, c'est essayer de maintenir les liens en essayant de parler autre chose. Parce que c'est très difficile de parler de ça. Essayez de garder des liens en disant, bon, on accepte qu'on n'est pas d'accord de ça, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Parce que c'est des gens qui sont quand même, on le voit dans les facteurs de risque de tomber dans le complotisme, il y a l'isolement, il y a les pertes. Tu sais, c'est des gens qui n'ont pas des vies très faciles, hein, ou c'est des gens qui ont... Fait que c'est essayer de faire en sorte qu'on essaie de garder les liens. Et s'ils veulent absolument parler des thèmes, tu sais, de la crise sanitaire et des mesures et tout ça, y aller par des questionnements, parce que c'est à un moment donné, quand eux sont plus capables de donner des réponses, mais que nous, on n'a pas proposé autre chose, c'est peut-être perçu un peu moins comme une attaque que de dire, ben là, à un moment donné, t'es au bout du raisonnement que ce mouvement-là peut te donner. C'est la négation de la réalité, à un moment donné, ça a ses limites, là. Donc, je suis moins moi-même, j'évolue dans mon interaction avec ces gens-là depuis 2 ans, parce que je me souviens au début de la pandémie, là, il y a des complotistes qui m'envoyaient un message Messenger avec un article totalement de désinformation. Je prenais 2 heures pour leur expliquer comment l'article était erroné, comment quand il fait référence à ça, à cet autre article-là, il le cite pas bien. Je veux dire, on peut pas faire ça là à chaque fois, parce que Donc maintenant, j'y vois avec plus des questions qui les poussent un petit peu dans les vacuums de leur théorie, parce qu'à un moment donné, il y a des vides là, de pensée là-dedans, parce que ça s'appuie pas sur la réalité.
Mais il y a... Fait que
je trouve que c'est...
Les gens qui ont des proches dans ces mouvances-là vont vous répondre que c'est extrêmement difficile de parler d'autre chose parce que souvent, ces personnes-là veulent juste parler de ça.
Absolument. Et si c'est pas possible, ce que je dis souvent aux gens, c'est correct de mettre des limites aussi. Tu sais, les gens, surtout si non seulement ils veulent pas parler d'autre chose, mais quand vous en parlez, le ton monte systématiquement ou ils deviennent systématiquement hostiles. À un moment donné, il faut mettre des limites à ça. On les aide pas en les laissant, tu sais, briser leur relation comme ça. Fait que c'est tout à fait correct à ce stade-ci de dire, écoute, si tu ne veux pas parler d'autre chose ou si tu peux pas garder un ton normal ou discuter calmement de ce sujet-là, ben on va interrompre nos communications pendant un certain temps et quand tu pourras en parler calmement, on se reparlera. Faut pas non plus les traiter comme des enfants, là, ça s'en est pas. Donc, il faut mettre la limite quand il y a des choses, que ce soit de l'hostilité, de l'agressivité verbale ou tout ça. S'il n'y a pas aucune communication possible, soit sur d'autres sujets, soit en discutant de ça, mais calmement, c'est correct de dire, mais non, ça passe pas, j'accepte pas ça. T'sais, on n'est pas les gens n'ont pas à devenir des punching bags là, pour que ce soit des proches, que ce soit des journalistes ou whatever. On n'a pas à tolérer des choses pas tolérables. Ça fait partie du message de dire on est prêt à débattre comme citoyen des idées, mais pas à ce ton-là. C'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il y a des gens complotistes qui vont accepter d'avoir des interactions sur autre chose, puis il y en a d'autres plus radicalisé encore, avec qui c'est plus possible du tout. Puis à ce moment-là, c'est correct, je pense, d'interrompre, de se protéger soi, notre santé mentale aussi, là, tu sais, parce que d'être tout le temps en communication avec quelqu'un qui est dans une réalité parallèle et qui n'est pas capable de parler d'autre chose, qui n'est pas capable de parler de ça calmement, ben, à un moment donné, c'est notre santé mentale à nous qui va en souffrir. T'sais. Fait que c'est correct aussi de mettre une limite ou de mettre une distance.
Je pense qu'on avance tous à tâtons là-dedans et qu'on apprend un petit peu sur le proverbe Yalta. Merci beaucoup, Dr. Coton. Toujours un plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
À la prochaine. Salut. Dr. Marie-Ève Coton, psychiatre.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.